dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Moi, souvent, quand j'entends, ouais, vous venez profiter de la France, ouais, vous venez profiter de. Moi, c'est quelque chose qui me fait très mal parce que moi, j'avais jamais imaginé un truc de ce genre. Jamais de ma vie. Tu vois? Et c'est très compliqué. Souvent, quand. C'est très, très. C'est dur, ça. Souvent, ça me. C'est comme ça.
Très émouvant ce que tu racontes. Tu as une vie terrible. Hein?
Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
Non,
il y a des trucs. Ouais, quand je le dis, quand je. Ça me. Je sais pas, ça me stresse encore,
Et
j'essaie de.
D'évacuer.
D'évacuer, d'oublier. Il y a des trucs encore que je. Mais dans le roman, tout est un peu écrit. Mais ça va.
J'espère que tu arriveras à le publier, ce roman, un jour.
Bah, j'espère.
C'est pas un roman, c'est un documentaire.
Un document, ouais. Quand tu fais le mal, tu vas le payer, tu vois. Donc, dans ma vie, j'essaie d'avancer comme ça. Et j'essaie de toujours, on ne peut pas être parfait à 100%, mais j'essaie de toujours faire attention à tout ce que je fais et tous ceux qui me font du bien et ne pas les oublier. C'est pourquoi partout où je passe dans ma vie, j'essaie de laisser toujours des trucs positifs pour que le jour où je reviens, on ne sait jamais, pour ne pas qu'on me rejette, quoi. C'est comme ça, ma vie un peu.
Bazou. En marche vers un espoir d'humanité et de liberté. Sur Dissonance. On les croise dans nos villes, grandes ou petites, dans nos villages même. Certains ont la démarche assurée, le regard clair et un sourire aux lèvres. Non, effectivement, tous ne sont pas comme ça et n'adoptent pas la même attitude.
Mais notre invité d'aujourd'hui, si. Il se nomme Bazou. Il a 20 ans. Il a vécu ce que nous, ici en Europe, sommes loin d'imaginer. Parfois, la télé, la radio abordent le sujet du destin tragique de ces jeunes migrants. Mais l'entendre évoqué par eux-mêmes donne à leur vie une dimension autrement plus choquante, révoltante et émouvante.
Peu de choses à dire pour vous donner envie d'écouter pendant une heure les mots, la souffrance, les colères, mais aussi les joies de Bazou. Ses paroles se suffisent à elles-mêmes.
Juste rappeler que la réalisation de cet entretien a été une des plus, sinon la plus émouvante depuis que Dissonance existe.
Merci à Bazou pour avoir accepté de témoigner. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a dit ce qu'il avait envie d'évoquer. D'autres choses ont été tues. Un grand merci à Bazou pour sa confiance, à cette mystérieuse Lucie du train Nice-Rodez qui, on l'espère, entendra cette émission. Et aussi au personnel de la MEX qui l'a aidé à se reconstruire.
Cette émission est dédiée à Drago, le petit frère, et à Ben et Thierry, ses amis.
Bonjour Bazou.
Bonjour.
Voilà, je t'ai rencontré il y a quelque temps, et ce qui m'avait marqué, c'était... Tu étais dans un centre d'accueil des jeunes migrants et tu m'as dit que des fois le soir tu étais triste, puis qu'une éducatrice t'avait dit « Mais Mets tes souvenirs par écrit et ça pourra t'aider. Est-ce que tu l'as fait?
Oui, mais au début, je voulais pas le faire. Mais après, ça mettait du temps, j'ai stressé tout et tout. Et une fois, on m'a dit, par écrit au moins, tu vas arriver à te retrouver peut-être. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Un peu. Chaque soir, j'écris un peu. Et sans me rendre compte, après, je me suis trouvé que j'ai fait assez de pages. Au fur et à mesure du fait que j'écrivais un peu, après c'est devenu un livre quoi. C'est devenu assez de pages, plusieurs pages. Et.
Ah, c'est super. Et ce livre, aujourd'hui, tu veux pas nous le lire, mais tu veux raconter oralement ton histoire.
Oui.
Bazou. En marche vers un espoir d'humanité et de liberté. Sur Dissonance.
Je viens de la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Ma petite enfance, c'est une longue histoire, ça. C'est un enfant grandi un peu en campagne, avec les parents.
Tu avais des frères et des sœurs?
J'ai des frères et des sœurs.
Et tu es l'aîné?
Je ne suis pas l'aîné. Avant, mon père, il vivait ma mère. Et j'étais avec mon frère, mon petit frère. Lui et moi, on était comme des jumeaux, en fait. Lorsque tu me vois et tu le voyais à tout prix, quoi. Et on a grandi ensemble. On grandissait à l'âge de 5 ans. Un jour, il avait mal à la tête. À midi, il est décédé devant moi comme ça. Et j'ai tenté de m'amuser avec lui. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué étant petit, tout et tout. J'y arrivais pas à me retrouver parce que mon frère, il était tout pour moi. On jouait ensemble. On faisait même fait de la bagarre, on le faisait ensemble. C'est-à-dire, si moi j'ai un problème, il venait me défendre. Il était le plus petit, mais il était encore plus costaud que moi. Et tout le monde l'appréciait, tout le monde l'appréciait. Et un jour, comme ça, le matin, mon père partait au champ, il a dit à mon père qu'il avait mal à la tête. Et mon père lui a dit, mais ça va aller. Le soir, je vais t'amener un gibier. Et il a dit à mon père, n'oublie pas mon gibier ce soir. Et on a rigolé. À midi, il était couché, je suis allé le réveiller, on a fini de bouffer, il s'est assis auprès de moi. 10 minutes après, c'est comme ça. J'étais encore petit. J'ai eu du mal à me remettre. C'était beaucoup dur pour moi. Et à la maison, j'étais toujours triste. C'est ce qui a poussé mon père à m'amener à l'école, sans même avoir l'âge d'aller à l'école. Parce que chez nous, je pense que pour aller à l'école, il fallait avoir 7 ans. Et j'avais pas encore 7 ans, je pense que j'avais 6 ans, un truc comme ça. Vu qu'à la maison, je me sentais seul, triste. Et mon père a souligné que du fait que je serais loin de lui, parce que l'école était à 7 km ou 9, et j'allais rester chez un tuteur, au moins j'allais me familiariser là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé à l'école.
Et ce tuteur, il était sympa avec toi?
Ouais, au début, il était très. Le tuteur, oui, lui, il était sympa. Et lorsque je suis arrivé, il était. Je faisais encore pipi au lit.
Oui, c'est normal, c'est normal.
Je faisais encore pipi au lit. Tellement mon père l'a raconté mon histoire du fait que le lien qui était entre mon frère et moi, et depuis que mon frère est décédé, je ne me suis pas remis. Et ça l'a tellement touché. Il me faisait dormir sur son propre lit conjugal. Et mais lui, il faisait du commerce. C'est-à-dire qu'il pouvait partir dans un pays, faire 5 mois, 4 mois. Et vu qu'au moment où sa femme a su que je faisais pipi au lit, elle ne pouvait pas tolérer du fait que je pisse sur le lit. Donc elle m'a dit, tu ne veux pas rester là. Et elle m'a mis avec ses autres enfants. C'est comme ça.
Tu as grandi avec eux.
J'ai grandi avec eux, mais ce n'était pas facile. C'était très, très dur. Ça, c'est des moments très, très compliqués de ma vie. Étant là-bas, on partait après l'école, fallait trouver à manger, c'était dur. Et le soir, aller chercher de l'eau au marigot. Chez nous, il y avait des puits un peu trop loin, et tu partais chercher de l'eau. Et c'est une fois comme ça, je suis allé. Il a plu. Et lorsqu'il a plu, l'eau a tellement rempli le puits, on voyait l'eau partout. Donc, je ne savais pas où mettre le pied, et je suis tombé dans le puits. Un puits très très profond, je sais pas combien de mètres ça fait, mais heureusement personne n'était là. Je sais pas comment je me suis fait et comment Dieu, c'était un miracle pour moi. Et je me suis en sorti seul. Bon, la vie, là, c'est lorsque j'étais à l'école, parce que j'ai eu mon entrée en sixième, c'est ce qui m'a mené d'abord en ville. Et chaque samedi, dimanche, je partais pousser les brouettes pour accompagner un peu les voyageurs à la gare, amener chez eux, envoyer les bagages chez eux pour avoir un peu de, au moins quelques centimes. Et je me suis dit, je ne peux pas rester ici, je vais mourir. Je me suis retourné chez mes parents. Sur moi, tout allait bien. Surtout moi, mon père, ma mère, tout allait bien. Ouais, tout allait bien. Mon père, il était très gentil. Il s'occupait de moi. Et moi, mon père, sur moi, il était bien, franchement. Même, je l'ai vu pleurer. La seule fois que je l'ai vu pleurer, c'est au décès de mon frère. Et mon père n'avait. Depuis cela, j'ai jamais vu mon père pleurer. Il a eu des problèmes avec la police, mais jamais de la vie. Mais c'est le décès de mon père. Il l'a vu pleurer. Il y avait l'entente, il y avait l'amour entre nous. C'était un peu dur.
Et donc, après être revenu chez tes parents, c'est
Oui.
là que tu as redécidé de partir.
Oh oui. Bon, lorsque je suis revenu chez mes parents, et j'ai commencé à mon père a acheté un vélo parce que j'étais un peu déjà grand. Je partais à l'école où c'est mon père qui partait me déposer à l'école. Et le soir, il partait me chercher. Et c'était un peu compliqué. Et là, il a commencé à avoir de la thune, mon père. Il s'achetait une moto. Une moto en campagne, tout le monde le regardait. Waouh, waouh. Et puis c'était une moto à vitesse, ce n'était pas les motos bécanes. C'était quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc tout le monde l'enviait un peu. Et 2 ans après, il s'achetait une voiture. Ah, tout le monde a dit ouais, ça allait, ça allait. Il s'est fait un moulin, tout et tout. Et il a commencé à marier plusieurs femmes. C'est là est venu le vrai problème. Parce que plusieurs femmes, on était déjà plusieurs femmes, il a eu des enfants avec
Ah oui.
les autres femmes et ils avaient mis ma mère un peu à l'écart. Souvent, tu venais et tu voyais que ta mère était battue, souvent des dents cassées. C'est quelque chose que je ne pouvais pas supporter. J'étais chez moi, chez mon père, et je l'aimais de tout mon cœur, tout et tout. Mais chez moi, à la maison, c'était un cauchemar, quoi. Parce que je vis ma mère isolée, souvent des dents cassées, souvent les cheveux arrachés. Je ne pouvais pas rester chez moi. J'étais encore plus heureux ailleurs que chez moi. Après, je me suis retrouvé en ville. Parce qu'à la maison, c'était plus. Le quotidien n'était plus ça à la maison.
En marche vers un espoir d'humanité et de liberté. Sur Dissonance.
Donc tu es revenu encore à la
Et
ville
c'est
cette
ce qui
fois-ci?
m'a poussé, vu que lorsque j'étais à l'école, j'ai poussé la brouette en ville. Je me suis dit, bon, je peux aller me débrouiller là-bas comme ça. Ouais, j'ai pris mes bagages et je suis allé en ville. Aller me débrouiller. C'est comme ça, c'est parti. Et lorsque je partais plus à l'école, j'ai fait de ça mon métier.
D'accord, et tu gagnais de quoi te payer un petit logement? De quoi manger?
Bon, de quoi manger, mais pas un logement. On s'était associé entre nous, un peu entre nous les amis, pour un appartement. Et c'est comme ça qu'on vivait. Et vu
Donc.
que je savais parler un peu le français, après le brouette, je partais, il y avait des vendeurs de téléphones qui vendaient des téléphones. Bon, je partais prendre les téléphones avec eux. Et je partais vendre le téléphone. Et par exemple, si le téléphone fait 10 balles, moi je pouvais le vendre à 12 balles. Et les 2 euros, c'était pour moi. Et j'ai commencé à tourner, faire un peu du commerce, tout et tout. C'était comme ça.
Et là, tu avais des copains, oui.
Ouais, j'avais des copains avec qui j'ai grandi. Et On a beaucoup fait, on a fait plein de choses ensemble. Moi, le problème est que c'est ce problème de la mort qui m'a beaucoup touché. Avec tout, c'est-à-dire mes amis proches, avec tout, avec ce que j'ai vécu, on avait des projets. Étant le con, on se disait qu'on allait devenir des avocats ou des animateurs de télé. J'avais deux potes comme ça avec qui j'ai tout fait. Même pendant les fêtes, lorsque ma mère ne pouvait pas m'habiller, parce que souvent c'était un peu compliqué pour m'habiller, il refusait de s'habiller. Parce que même son père ou sa mère avait acheté des habits pour eux, mais ils ne le portaient pas. Du fait que moi, je n'avais pas des habits. Et si ma mère apprenait ça, elle prenait tous ses fonds. Ou mon père, il se sentait humilié. Il déposait quelque chose pour qu'on m'habille. Et j'ai grandi avec eux. Il y a un qui s'appelait Ben et l'autre s'appelait Thierry. Aujourd'hui, je suis. Ça me touche. C'est quelque chose, j'aime pas trop le dire. Je ne peux pas faire une semaine sans rêver à eux. Les deux sont morts. Et ça, c'est pourquoi j'ai du mal à faire un ami. J'arrive pas. Mais chaque je ne peux pas faire une semaine sans rêver à Ben ou à Thierry. J'ai fait toute mon enfance avec eux. On a grandi ensemble. On allait en ville ensemble. Et aujourd'hui, même si je n'irai pas dans ma vie, je n'ai pas d'amis en tant que tel. C'est les deux qui étaient mes amis.
Oui, mais ils sont toujours présents dans ta tête.
Oui, parce que je ne peux pas faire une semaine sans rêver à eux. Même avant-hier, j'ai rêvé à Ben. Comme ça.
Et déjà, tu avais des projets de quitter la Côte d'Ivoire ou non, pas encore?
Non, mais nous, et même à l'école, on n'avait jamais l'idée de quitter la Côte d'Ivoire. Ben, il était très intelligent, il y a certains qui l'appelaient même des surdoués. Et moi, à l'école aussi, en matière littéraire, c'était bon, quoi. Et c'est comme ça en ville, malgré qu'on a arrêté les études, on a grandi et on a commencé à faire le commerce. Il y a une fois, Ben partait toujours à l'école. Il partait toujours à l'école parce que ses parents avaient assez, un peu de moyens, même Thierry. Et il y a une fois, je suis allé l'attendre le soir pour qu'il finisse. Et on a joué au foot. Et le professeur m'a vu là. Il m'a dit, mais depuis 2 heures, tu es là. Tu fais quoi? J'ai dit, non, j'attends mon pote qui est à l'intérieur. Il me dit, au lieu de l'attendre là, viens t'asseoir. Et je suis allé m'asseoir. Et il faisait le coup, il faisait le coup. Il posait des questions et personne ne répondait. Et j'ai souri en fait parce que moi, pour moi, je pouvais répondre à la question. Il me dit, mais tu souris si tu as la réponse, donne-nous la réponse. Et je tournais des réponses. Il me dit, waouh, mais tu vas à l'école? Je dis, non, je ne vais pas à l'école. Il dit, merde. Il m'a demandé qui sont tes parents. Je lui ai expliqué un peu. Il m'a dit, oh, mais dommage, il faut que tu ailles à l'école, tout et tout. Donc il connaissait un peu ma famille, tout et tout. Il connaissait un oncle. Donc il a dit à mon oncle, c'est un oncle pas trop rapproché, mais qui était économe d'une école. Et il allait voir l'économe pour que j'aille à l'école. Et l'économe a dit, ok, je paie ses études pour qu'il aille à l'école. Qu'il est trop bien. Et l'année qui a suivi, il devait aller à l'école. L'économe qui devait être censé payer mes études, il l'a pas fait. Et vu qu'il n'a pas fait, parce que mon pote Ben, il faisait le cours du soir. Le soir, on étudie, ils étudiaient avant d'aller demain à l'école. Et il y a une fille comme ça qui m'a. Dans le cours du soir, j'ai arrivé à déclencher un peu la situation. Et c'est cette fille qui a payé mon école. Une fille que je ne la connaissais pas. On s'est vu à l'école. Et après, on s'est vu au cours du soir. On est devenus des amis. Et c'est elle qui a payé mon école. Mais ça ne pouvait pas durer vu que c'est comme ça. J'ai repris encore l'école. Je suis allé jusqu'en classe de 5e à 4e. Et après là, c'était un peu plus cher. Et là, j'ai arrêté les études. J'ai repris encore le commerce. J'ai pas trop duré dans le commerce. J'ai pas trop duré dans le commerce parce que c'était un peu dur. Parce que c'était le commerce ambulant et il fallait marcher chaque fois pour marcher. Et souvent, je venais crever. C'est comme ça que j'ai rencontré le mec qui a fait en sorte que je me suis retrouvé en Europe. Ouais. Oh oui, bon, c'est dû à plusieurs raisons, tu vois. Vu que ma mère, c'était plus ça, elle était un peu abandonnée. Et puis en plus, vu qu'elle voulait toujours travailler pour nous aider, parce que nous sommes huit. Nous sommes huit. Fallait payer nos études, fallait nous scolariser, nous habiller. Et elle s'est mise dans le travail de potager. Chez nous, le potager, c'est du bas-fond. Tu rentres dans la boue, jusqu'à là. C'est-à-dire, elle peut rester dans la boue, matin qu'au soir, tous ses pieds dans l'eau. Pendant 2 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc, elle a chopé une maladie. Voilà où elle ne pouvait pas se redresser. Et c'était un peu chaud. Fallait l'opérer, fallait l'aider. Et il n'y a personne pour l'aider. Je sais pas, mais 50 centimes, mais 1 euro par jour qui pouvait faire quelque chose. Et c'est comme ça. Et...
Et tu t'es dit qu'en partant à l'étranger, tu pourrais l'aider? En
Bon.
lui envoyant de l'argent peut-être ou...
Au début, c'est pas venu comme ça. Vu que j'étais avec mon pote Ben et il savait. Partout où on passait, il savait que bon, nous, on était un peu bien à l'école. Donc, il y a des gens qui nous connaissaient un peu. Et c'est un jour comme ça, nous sommes allés vendre des trucs parce que Ben et moi, le jour, il ne va pas à l'école. Il vient avec moi pour qu'on aille. Et un jour, nous sommes allés vendre et on est venu tard, environ 2 h du matin. Dans le quartier, c'était un quartier précaire où à 2 h du matin, c'est risqué de rentrer. On a pris un taxi. Le taxi nous a déposé au goudron et puis il nous a dit je peux pas aller plus parce que votre quartier est dangereux. Et on a commencé à marcher. C'est là, on a vu une moto. Il y a un mec qui vient et il dit vous partez où? On a dit mais montez, je vous dépose. Et on lui a raconté un peu l'histoire, quoi. De la journée. Il m'a dit ok, à vous, j'ai entendu parler de vous, mais comme ça, j'ai mon fils qui fait CP1, CP2, il est très nul à l'école. Est-ce que toi, tu peux pas venir l'encadrer à la maison pour que souvent il te file un peu de thunes? Je lui ai dit ouais, il n'y a pas de problème. Le lendemain, j'étais déjà là, devant sa porte. Donc, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, l'enfant et moi, on a créé un bon lien. Le petit, à la maison, ça n'allait pas. Mais depuis, c'est. Parce que je voyais en lui mon petit frère, je voyais en lui. Et moi, j'ai toujours aimé donner ce que je sais. Et le petit, parce que eux, ils avaient l'habitude de le gronder, de l'insulter. Et moi, je ne l'avais jamais insulté. Souvent, même quand ils ne connaissaient pas, pourtant, je pouvais déposer des trucs. Je dis, tu trouves, tu prends ça comme un cadeau. Si tu ne trouves pas le cadeau, je vais avec. Donc, le petit, je pense qu'il a créé un bon lien. Et il est devenu, au fur et à mesure du dernier, ou je ne sais pas. C'était pas le dernier de la classe, mais du 30e, il est devenu 10e. Après, donc le père, il était tellement content. Il m'a dit, wow, grâce à toi, mon fils, grâce à toi. Et c'est comme ça, c'est lui qui m'a dit, mais pour la santé de ta mère, est-ce que je connais un pote en Tunisie, là-bas, qui les gars payent par semaine, et si tu pourrais pas aller travailler en Tunisie, au moins 6 mois, avoir de l'argent. Pour pouvoir soigner ta mère et revenir et puis continuer tes études ou bien avoir, tu vois. C'est comme ça l'idée de quitter mon pays est arrivée.
Donc, tu es allé en Tunisie.
Je suis allé en Tunisie. Bon, lorsque nous sommes arrivés en Tunisie, à l'aéroport, en fait, le monsieur, celui que j'encadrais son fils, il était clair. Mais son pote qui était en Tunisie, il n'était pas bien, en fait. Lorsque je suis arrivé, vu qu'avant d'arriver, déjà, il sait déjà que j'allais venir, son pote l'a déjà tout parlé. Il m'a déjà trouvé un boulot avec un arabe, tout et tout. Il a pris une grosse somme avec l'arabe. Et c'est moi, je devrais travailler pour payer cette somme.
Ah oui, remboursé.
Rembourser. Moi, je sais rien. Moi, c'est venu pour. Tu vois, moi, je pense que je viens, je pense, on me paye pour que je puisse. C'était le cas contraire. Et vu que j'étais pas le seul dans. Moi, je suis arrivé en Tunisie, je pensais que j'étais le seul noir en Tunisie. Parce que moi, le fait, l'immigration, c'est des trucs. Moi, souvent, quand j'attends, ouais, vous venez profiter de la France, ouais, vous venez profiter de... Moi, c'est quelque chose qui me fait très mal parce que moi, j'avais jamais imaginé un truc de ce genre. Jamais de ma vie. Moi, j'ai rêvé jamais de travailler dans le BTP. J'avais jamais rêvé de travailler dans... Jamais de ma vie. Tu vois? Et c'est très compliqué. Souvent, quand... C'est très, très... C'est dur, ça. Souvent, ça me... C'est comme ça. Lorsque nous sommes arrivés en Tunisie, à l'aéroport, on sort, je croise le monsieur, il dit, c'est toi? C'est toi, Bazo? J'ai dit, oui, c'est toi, Bazo. Ouais. Ok, cool. Mais il était accompagné de l'arabe. Ok. Ok, donne-moi ton portable. Je lui donne son portable. On va te donner une puce d'ici, tout et tout. Il dit, ok, normal. Tes papiers, je le garde. On va prendre la voiture. Pip. Il nous envoie dans un endroit. Grande clôture. Personne ne sort. J'y vais là-bas. Je trouve des Africains là-bas. Des jeunes comme moi, plus âgés, souvent plus petits. Bon, plus petits, de taille, je ne pense pas. Peut-être en âge, mais plus petit et plus grand, oui. Souvent même des gens. Mais je comprends pas. Pour moi, dans ma tête, je serais le seul noir en Tunisie. Un truc comme ça. Et là-bas, je commence à bosser. Je bosse. Chaque semaine, pour moi, chaque semaine, il devrait être payé. J'ai dit, mais la paye, il n'y a pas de paye. On dit, le mec qui t'a amené ici, il a pris 6 mois. Donc, tu dois travailler 6 mois. Après 6 mois, tu serais payé. Moi, je suis là. Je m'inquiète à ma mère. Je ne sais même pas dans un mois si quelque chose va l'arriver. Il doit travailler 6 mois. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Au début, ils m'ont pas dit ça comme ça. Au début, ils m'ont dit, ouais, ton agent, vu que tu viens d'arriver, on va garder. Et 2 mois après, on va tout te donner. Parce que, tu vois, ton histoire, on connaît, il a pouvoir. J'ai dit, ok, ça me va parce que si j'ai l'argent sur moi, je risque d'aller. Ils vont me le voler. Je me suis dit, ok. Et le juge, je réclame mon argent. On me dit, non, t'as pas d'argent. Il te reste encore. Et ça m'a choqué. Pas de bon boulot. Partout où je bossais, on me payait pas. Il y avait du racisme. J'ai vécu plein de choses. Je me suis fait piquer avec un tournevis dans le ventre. J'ai perdu le contact de ma famille. J'ai perdu le contact de tout le monde. Le jour que nous sommes arrivés à l'aéroport, ils ont pris mon portable, tout et tout. Mais mon pote, il est resté là-bas. C'est moi seul, je ne suis pas sorti. Et c'est comme ça, j'ai perdu le contact de tout le monde. C'était compliqué. J'ai croisé un pote là-bas, un Burkinabé. On faisait le travail d'olive. On travaillait dans les champs d'olives, on creusait des trous de 1 mètre, ou bien 500 cm pour mettre les pieds d'olive. Et on était. C'était une grande coup, on ne pouvait pas sortir. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut que je vais chez moi. Le mec m'a dit, mais tu vas chez toi, tu vas comment? J'ai dit, ah, il faut que je vais chez moi. On a décidé de quitter. Et une nuit, on a pris la clôture. Bim, nous sommes sortis.
Tous les deux, vous êtes enfuis
Ouais, nous sommes
de ce centre.
C'est comme ça.
La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Yeah.
Bazou, en marche vers un espoir d'humanité et de liberté. Sur Dissonance.
Et de Tunisie, tu es passé où après?
Ouais, en Tunisie, nous sommes sortis. Et c'est là, en fait, on n'était pas trop loin de Libye. Bon, lorsque nous sommes sortis, on a fui et on est allé sur un chantier d'abord. Un chantier des maçons. C'était pas en Libye, mais c'était en Tunisie, mais c'était dans la frontière, quoi, en fait. C'était une ville de la frontière. Et nous sommes allés, on a dit, on veut bosser. Le mec nous a dit, vous pouvez bosser, mais vous serez payé. Mais j'ai pas d'endroit pour vous garder, j'ai pas de maison. Et nous, on lui a dit, c'est pas grave. Vu qu'il y a des maisons qui sont déjà finies, on pourrait mettre des cartons et essayer de dormir là, travailler et dormir là. Et c'est comme ça. D'abord, il y a les grosses boîtes de tomates là. C'est dans ça qu'on cuisinait. On prépare dedans et on mangeait. Et la nuit, souvent, les jeunes arabes venaient nous braquer. Ils prenaient la thune. S'ils savent qu'on nous sommes payés de la semaine, ils venaient prendre la thune. Donc, comme ça, lorsqu'on nous paye, on avait creusé un trou. On fait mettre l'argent là-bas, on met un caillou pour ne pas faire un repère, quoi. Au moins, et puis on laisse au moins 20 dinars sur nous, 10 dinars, au cas où il vient te menacer, tu dis, voilà tout ce que j'ai, ce qu'ils m'ont donné, j'ai donné à telle personne et j'ai plus rien, voilà tout ce que j'ai. Et c'est comme ça on arrive à s'en sortir. Et c'est comme ça, là-bas, on a croisé, on a croisé un Burkinabé encore, qui était là il y a longtemps, qui vivait là en fait. Et moi je lui ai dit, je lui ai raconté un peu mon histoire, je lui ai dit, il faut que moi je me retourne chez moi. Il m'a dit, mais tu peux plus te retourner chez toi, parce que tu dois payer telle somme à l'État, et pour te retourner, il faut prendre la route de Libye, c'est pas Mali, Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est le désert, c'est le Sahara, c'est la mort certaine. Et tu peux rester ici, travailler et prendre la mer, l'eau pour aller en Italie. C'est risqué. Tu peux mourir sur l'eau, mais si tu ne meurs pas, tu auras une vie meilleure en Italie où tu peux travailler pour soigner ta mère. Mais si tu prends le Sahara, c'est sûr à 100%. C'est ce qu'il m'a dit, à 100% tu vas mourir. Vu que tu ne peux plus te retourner par voie légale pour rentrer parce que tu n'as pas d'argent pour payer au gouvernement. Et j'ai pleuré pendant 2 semaines. Je ne pouvais pas. Et c'est comme ça.
Mais ça coûte cher aussi un voyage pour aller en Italie, non? Tu te comptes, tu as fait pour avoir l'argent?
Oui, mais on était maçon, on travaillait aide-maçon. Ah, dans oui. Cet argent, on gardait. Mais vu qu'il connaissait nos situations, le mec, il nous a dit, ok, moi je vais vous aider, je vais vous parler à un passeur qui va pouvoir vous aider. Mais moi, J'étais pas d'accord. Pour moi, je pouvais pas passer sur l'eau, quoi. Parce que je sais pas nager. Je sais pas nager. Pour moi, aller sur l'eau, c'est aussi la mort. Parce que moi, je sais pas nager. Et c'est comme ça, le jeune Burkinabé, il m'a dit, allons-y. Faut pas déconner. Si tu te retournes, tu vas mourir. Et puis d'abord, qui va t'amener? Qui va te prendre de la Tunisie, passer par la Libye, dans le désert, et dans l'ouest, ça, le désert, dans le Sahara, là, mm-hmm. pour aller au Mali, du Mali, en Côte d'Ivoire. Personne. Mm-hmm. Mais ici, c'est sûr. Et c'est comme ça, on a bossé là, et on a économisé un peu, et il nous a fait une faveur, le mec, pour nous prendre et nous emmener en Libye, parce qu'il fallait partir maintenant en Libye. C'était pas loin, quoi. Et aller en Libye.
Ils arriveront quand même, malgré les murs, malgré les mers, malgré les murmures amers ou les déclarations guerrières. Ils arriveront quand même, car ils sont jeunes et qu'ils n'ont rien, pas même l'espoir que demain soit différent de ce matin.
On arrive en Libye, le premier voyage, et les mecs, les rebelles viennent, ils nous prennent tous des prisonniers.
Tu allais en prison?
Ouais, bon, c'est pas une prison en tant que... Mais on est dans les cases maintenant, ils font du chantage, appellent vos parents pour... Moi, j'ai même pas le numéro de mon père ni ma mère, j'ai personne. Qui faut appeler? Personne. Donc à chaque fois, ils venaient, ils frappaient des gens. Il violait il y avait des femmes parmi nous, il donnait des bois de sardines souvent. Il y a certains, ceux qui avaient assez de moyens, ceux qui avaient des parents un peu, qui avaient l'argent, ils les amenaient là pour qu'on puisse les libérer. Mais moi, moi, j'avais fait ça. Ce qui était ma chance, mon père, il est musulman. Donc, mon père, il lit un peu le Coran. Dans les mots, quelques mots en arabe, je les connaissais un peu. Donc, lorsqu'il vient, le mec, il vient, il parle aux blagues qui sont là. Personne ne comprend. Et c'est moi, maintenant, j'essaie de traduire. Je ne comprenais pas tout, hein, parce que l'arabe, c'est le Coran, ou ce que mon père parlait, c'est un peu différent. Mais il y a au moins quelques mots que j'arrive à capter. J'ai menti un peu sur les mots, mais un peu. Donc, lorsqu'il venait, il venait directement s'adresser à moi. Il dit à telle personne d'envoyer telle somme pour que je puisse le libérer. Et j'ai traduit, c'est comme ça. Donc j'étais resté comme l'intermédiaire, genre le messager. Et c'est comme ça. Moi, j'étais resté vu que j'avais rien. Donc lui, il préfère m'avoir. Il ne pouvait plus me frapper pour que je puisse passer le message. Et c'est comme ça, c'est pas dit. Et un jour, c'est comme s'il va se tirer une balle dans la tête, quoi. Il vient, il me dit, mais on va m'acheter de la cigarette. Waouh. C'est là que j'ai fui.
Et tu te retrouvais tout seul, alors.
Ouais. Mais lorsque je suis sorti, le mec qui nous est amené en Libye, j'avais son numéro en tête. C'est lui, j'ai appelé, il me dit, ouais, bingo, je vais te chercher, je te gâche chez moi. Et mon pote au Burkinabé qui était encore là-bas, il m'a dit, bon, on va tout faire pour le libérer. Bon, lui, je sais qu'il n'est plus là-bas, il est en France maintenant ou en Italie. Parce que, après, je suis arrivé, un an après, ils m'ont dit qu'il ouais, était libéré. Mais c'est là, lui et moi, on s'est perdu de vue. C'est comme ça.
Et donc, après, tu as rencontré un passeur, c'est ça?
Oui, c'est... Jeune Burkinabé qui nous a amené de la Tunisie à Libye, ouais. Qui nous a confié à un passeur.
Qui t'a pris tout l'argent aussi.
Ouais, mais tout le peu que j'ai gagné de la maçonnerie, selon lui, c'était même pas la somme, c'était comme un arrangement, quoi. Mais ça me va, quoi. C'est comme ça.
Comment s'est passée la traversée, alors toi qui savais pas nager, qui avais peur de l'eau?
Là encore, c'est encore plus compliqué, hein. Parce que c'était très très dur. Tu vois des gens mourir, parce que nous on est venu sur l'eau, c'était En fait, la météo, parce que je pense que là-bas, les gars regardent la météo. Si c'est bon, on vous lance. Mais peut-être qu'ils se sont trompés. Et arrivé devant, c'était compliqué, on n'avançait pas. Et il y avait l'eau qui rentrait, il y a des gens qui, tu vois, se débattaient, etc. C'était compliqué, très compliqué. Et ça pleurait, ça. Waouh, c'était un truc de. C'est incroyable. Ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Des gens, on s'est connus une journée, mais c'était. Et c'était environ, il sait pas environ, on nous a lancé à 23h. Et demain, à 14, à 16h, on ne pouvait
Le bateau s'arrêtait sur
plus
l'eau.
s'arrêter. Même celui même qui conduisait a commencé à pleurer. C'est là que tout le monde a su que c'était fini. Et j'avais un petit portable. C'est pas moi qui l'avais, il y avait un gars qui avait un petit portable, chez nous on l'appelle portable à cartel. Et il arrivait à choper le réseau. Il y avait une barre. Et il a dit, mais il y a réseau. Et on appelle, ça passe pas. Bon, vu que bon, moi je me suis dit, c'est venu en tête comme ça, j'ai écrit numéro d'urgence. Et on a appelé et c'est les mecs en Italie qui ont décroché. Et j'ai dit, on est sur l'eau, on ne peut plus bouger. Waouh, ils sont venus chercher. Ils sont venus tellement lourd, c'était fort. Ils n'ont pas pu. Ils se sont retournés. Ils sont retournés. Ils sont allés prendre un autre bateau encore plus costaud. Et il faisait tard, il faisait très nuit. Ils n'arrivaient pas à nous voir. Donc on a enlevé nos habits. J'ai enlevé mon habit. Et on a mis du carburant, et on a mis du feu, et on a fait ça. Et c'est comme ça qu'ils nous ont repérés. Ils nous ont fait sortir. Et ils ont demandé qui a appelé. Tout le monde a dit c'est lui. Le mec, il a dit c'est celui-là qui vous a sauvé la vie. Oh, tout le monde. Donc c'est comme ça. Avec tout ce que je suis rentré, même aujourd'hui, à cette heure qui m'appelle, il me dit tu nous as sauvé la vie.
Tu restes
J'ai
encore.
croisé un ici à Rodez avec sa femme. Il a fait un enfant. On s'est croisé à la gare. Il m'a dit, tu nous as sauvé la vie. Et ces jours, je me suis dit, waouh. Waouh. Moi, au début, j'avais pas encore. On me disait, ouais, tu nous as sauvé la vie grâce à toi. Mais pour moi, ça me disait rien. Mais c'est le jour où le mec m'a dit ça à Rodez, tu nous as sauvé la vie. Parce que sa femme était enceinte. Et tu nous as sauvé la vie. Ça m'a touché. J'ai dit waouh. C'était cool. Et on a changé de numéro. Il m'a dit ouais, j'ai demandé l'asile, j'ai mon enfant, j'ai les papiers. J'ai dit ok, bonne chance. C'était comme ça.
Le dieu Bazou.
Donc c'est ça aussi.
Bazou. En marche vers un espoir d'humanité et de liberté. Sur Dissonance.
Et donc après, tu arrives en Italie
ouais.
et
On
tu...
arrive en Italie et je sais pas où nous envoyer. C'était à Sicile. On reste à Sicile pendant 4 jours, je crois. On était nombreux, plusieurs ressortissants. Après Sicile. Non, c'était pas Sicile. On était à Lampedusa. De Lampedusa, on nous a amenés à Sicile maintenant. Et de Sicile, on nous a filé des cartes pour appeler les parents pour dire nous sommes arrivés. Moi, je ne sais pas qui faut appeler, je n'avais pas numéré personne. Il était là. Et tout le monde courait, oh, le téléphone, faut appeler. Et moi, j'étais assis avec mes cartes en main. Je ne sais pas qui faut appeler. Et il y avait un Camerounais qui a appelé sa famille. Il était content, mais il n'a pas assez parlé, quoi. Et c'est fini. Il était là, oh putain, mais je n'ai rien dit. Et je lui ai dit, t'as rien dit? Il dit, ouais, j'ai appelé ma mère, j'ai fini, j'ai appelé mon oncle et mon grand frère qui est à Paris, qui devait me chercher, tant, tant, tant. Et moi, il a dit, ok, c'est mon petit qui appelle. Il me dit, mais et toi? Je dis, non, moi, je ne sais pas qui faut appeler. Et il a appelé, il était content, il est venu m'a remercié. Il dit, tu m'as sauvé la vie. En plus, tu t'es venu me filmer. Ah, t'es trop gentil. Et lui et moi, on a créé un lien. Patrouille passait, même quand, lorsqu'il achetait à manger, parce que lui, il avait un peu de thunes, il avait au moins 35 ans ou 32 ans, un truc comme ça. Il dit, petit, viens, et il me filait un peu. Mais j'avais une plaie, mon pied était enflé, tout et tout. Et son frère qui était à Paris, il a envoyé de l'argent pour qu'il puisse rentrer à Paris. Et moi, je me suis dit, waouh, en Italie, je ne comprenais pas l'italien. C'est le seul mec qui arrive à me nourrir ici encore. Bon, vu qu'on nous donnait à manger au camp, mais ce n'était pas suffisant. Ouais, tu manges une fois et puis c'est pas bon. Mais au moins avec lui, j'arrive à manger. Il a dit, mais tu vas avec moi. Il m'a dit, oh, je parle avec toi. C'est un peu dur, c'est pas. Il dit, oh, tu me laisses ici, c'est pas bon. Tu vois le pied que j'ai. C'était enflé, il y avait de la pu. Il m'a dit, ok, mais il te promet rien. S'il envoie de la thune. On ira, mais au moins si tu restes à la capitale, au moins tu peux te démerder là-bas. Il dit, ok, ça me va. Et c'est comme ça, il a payé mon ticket de Sicile et on est parti.
Et vous êtes arrivé où?
De Sicile, on est passé par, je ne maîtrise plus trop le nom des villes, par Roma, on est venu à la frontière.
La frontière avec la France.
La France, j'ai oublié le nom de la ville.
Ventimiglia, non?
Ventimiglia, c'est ça. Ventimiglia. À Ventimiglia maintenant. Non, avant même d'arriver à Ventimiglia, j'avais pas. Il n'y avait plus de sous pour me payer mon ticket. Donc, c'est lui qui devrait partir. Et moi, j'allais rester, je n'étais pas en Rome ou bien une ville de ces gens. Ah là, je me suis dit non. On rentre. Moi aussi, je rentre. Je n'ai pas de ticket, je n'ai rien payé. Mais tellement j'étais sale, j'avais le pied comme ça là. Personne ne me demandait les sous. Personne. Et les mecs sont venus, ils ont. Toi. Moi, ils sont arrivés, j'ai dit. Ils m'ont touché, j'ai dit, moi, j'ai rien. Le mec, il m'a regardé, il a regardé mon pied, il a remué sa tête, il m'a laissé. On est arrivé à Ventimiglia. Arrivé à Ventimiglia, on a pris le train. À la frontière, on les a attrapés. Le Camerounais, on dit non, c'est illégal. Je suis pas passé. Mais et moi, on m'attrape, on me regarde. Je dis, mais lui, il est malade. Lui, si vous ne soignez pas, c'est pas bien. Laissez-le, c'est un enfant. Moi, je suis arrivé en France avant lui.
Et c'est la police française qui t'a laissé passer alors?
Ouais. Et c'est comme ça, ils m'ont laissé passer. Il y avait, dans la police, il y avait un Ivoirien qui était pas pour être policier. Et ils m'ont demandé, t'es Ivoirien? Il dit, ouais. Et il dit, t'as quel âge? Je lui ai dit, mais j'ai 16 ans. Il dit, bon, il n'était pas le chef, il dit, mais il faut voir avec le patron. Et le mec, j'ai boité, il m'a dit, mais putain, lui, il faut le soigner plus vite, quoi. Et il m'a dit, partez avec. Il a dit au gars du SNCF, je sais pas si c'est SNCF, il y avait c'était une femme, allez-y avec lui. Et c'est comme ça, moi, je suis rentré en France. Et le pote qui a payé mon transport, ils l'ont recalé là-bas.
Il a pu s'en sortir après.
Ouais. Il est à Paris, on communique toujours. Et son grand frère, il est content de moi. Souvent, il m'appelle. Son grand frère m'a même envoyé un peu de. Il m'a envoyé, j'étais encore rudesse, il m'a envoyé plus de 160 euros pour le bien rendu à son frère. Et j'étais content.
Et de Ventimiglia, t'es arrivé à Paris, t'es arrivé où?
Non, je suis pas arrivé à Paris. Je sais pas, c'est Nice ou c'est Nîmes, je sais plus.
Nice, oui.
Nice. On arrive à la gare, il fait nuit, on dit sortez. Personne ne dort à la gare. Je dors dehors là. Il faisait froid. Il faisait froid. J'étais là. Bon, moi, je connaissais pas la France. Vu que le Camerounais me disait que je vais à Paris. Moi aussi, dans ma tête, je vais à Paris. Je n'ai pas de thunes. Donc, de la manière, vu que je savais que j'étais un peu malade, j'avais pas. Donc, je savais que je pouvais arriver à Paris comme ça. Et le matin, le train de Paris, bloum, je rentre. Il y avait une dame, une femme, je me suis assis auprès d'une femme. Elle s'appelle Lucie. Il me rappelle du nom. Elle s'appelle Lucie. Mais tu vas où? Je dis, je vais à Paris. Elle dit, ah ouais, tu vas à Paris comme ça là? Je dis, oui. Tu as des parents là-bas? Non. Tu connais qui ici? Personne. Tu connais personne, mais tu vas à Paris pourquoi? J'ai dit, mais je vais à Paris. Tu vas chez qui? Il dit, personne. Il a dit, non. C'est pas bien ça. Et moi, je vais à Rodez, il y a des camps pour mineurs, tout et tout. Si tu veux, moi, je vais en vacances, je peux te laisser dans un centre d'accueil où je peux prendre soin de toi. Et elle m'a donné un manteau, tout et tout, et c'est elle qui m'a envoyé à Rodez.
C'est comme ça qu'on a la chance de t'avoir, Bazou.
Ouais, c'est ça. C'est comme si je suis arrivé à Rodez.
Et après, tu as fait le parcours, Kaomi, Mex, ouais, tout ça.
J'ai fait de Rodez, on nous a envoyé à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, après l'évaluation, on nous a laissé à Fabre. Des Fabre, il fallait fermer des Fabre. Ils ont ouvert la messe de Pont-Sala et on nous a envoyé à Pont-Sala. Et c'est comme ça et je suis resté pendant 3 ans. J'ai passé des bons moments avec les éducatrices, tout et tout. Et j'ai créé une famille là-bas. J'ai aussi des familles. La famille m'était à
Bilbao.
Non, la famille m'était à Mauriac et la famille Rousseau à Rodez. Maria et la famille Rousseau qui est française, sa femme qui est Maria qui est espagnole, où souvent je vais faire les vacances en Espagne, qui sont très très gentils. Le lundi dernier, elle était là avec son mari et c'est une famille que je porte. Et pour moi, c'est ma famille. La famille Mété et la famille Rousseau.
Camille, voilà. Quels sont tes projets d'avenir avec une aventure aussi incroyable? Tu as vécu 10 000 vies, quoi.
Ouais, bon, moi, je me dis, c'est la vie, c'est le destin. Même dans mes écrits, je ne peux pas tout. Mais avant même ma naissance, souvent au village, on nous raconte des trucs, quoi. J'étais déjà confronté à des trucs. Même ma mère, tout et tout. Donc, il y a un moment, je me suis dit, c'est la vie. Il faut affronter toujours le côté positif, peu importe ce qui va t'arriver. Tout ce qui nous arrive, parce que moi, je pratique pas la religion, mais je suis un peu croyant. Je sais que quand tu fais le bien, tu vas le payer le bien. Quand tu fais le mal, tu vas le payer. Tu vois? Donc, dans ma vie, j'essaie d'avancer comme ça. Et j'essaie de toujours, on ne peut pas être parfait à 100%, mais j'essaie de toujours faire attention à tout ce que je fais et tous ceux qui me font du bien et ne pas les oublier. C'est pourquoi partout où je passe dans ma vie, j'essaie de laisser toujours des trucs positifs pour que le jour où je reviens, on ne sait jamais, pour ne pas qu'on me rejette, quoi. C'est comme ça, ma vie un peu.
Merci beaucoup, ouais. Bazou, pour ouais. Ta confiance.
Merci à vous. Et je voulais ajouter quelque chose concernant mes amis que j'ai perdus. Mon pote Ben, qui ne vit plus. Thierry, qui ne vit plus. Et mon frère, qui ne vit plus. Et à chaque fois, je pense à eux. Je pense que j'ai... À chaque fois, quand je pense, ça me donne encore de la force. Pour dire... Aujourd'hui, on était tous heureux, ils ne sont pas là. Moi, j'ai de la chance d'être là. Donc, je ne laisse pas, quoi. J'avance. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont décédés avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'atouts. Comme souvent, on le dit, souvent, on dit les endroits les plus riches sont les cimetières. Je sais qu'ils sont morts avec assez de talent. Et ces talents, c'est triste, mais...
Ces talents, tu les portes en toi, Bazou.
Oui.
Et si tu en es d'accord, on va dédier cette émission à Ben, Thierry et ton petit frère.
Et mon petit frère.
Merci, Bazou.
Merci à vous.
Salut.
Et fraternité.
Les larmes des pauvres ont un goût amer, mais il y en a tant qu'elles font des rivières. Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère et désespérément y noyer leur colère. rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Sachez les enfants que lorsque l'oiseau chante, il chantit aussi fort dans sa cage pimpante. Qu'on se demande parfois si ce curieux ramage est un hymne à la joie ou bien un cri de rage. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Le rire des pauvres n'est pas rigolo. Quand leur joie explose, c'est comme un sanglot. Qui voudrait dire tant mieux et qui grimace tant pis. Et qui cache comme il peut le chagrin sous le tapis. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Le rire d'une femme caracole au ciel éclabousse nos cœurs en rayons de soleil. Mais quand c'est pas le patron qui lui pourrit la vie, elle récolte les nions de son gentil mari. Les larmes des pauvres ont un goût amer, mais il y en a tant qu'elles font des rivières. Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère et désespérément y noyer leur colère. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais paraît qu'un mouton peut se changer en nous.